أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec un plaisir particulier que je vous retrouve pendant ces émissions sur le message de l'islam. Essayons ensemble de réfléchir à un certain nombre de ces éléments qui nous importent, à ces fondements de l'islam. Et puisque nous entrons dans, pendant le mois du Ramadan, pendant ces 10 derniers jours, il est important de se souvenir et de penser à un certain nombre de choses que nous faisons régulièrement, spirituellement, parce que c'est ce à quoi nous invite l'islam et notre religion, mais sur lesquelles parfois il faut s'arrêter, essayer de comprendre par exemple, et ce sera le thème d'aujourd'hui, notre relation avec le Coran. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il parle du Ramadan, quand il parle de ce mois, il nous dit et il nous rappelle « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan dans lequel et pendant lequel a été révélé le Coran. Ce que ça veut dire, et nous l'avons déjà dit dans une autre émission, c'est que pendant ce mois, il y a la première révélation où le Coran dans son entité, du ciel le plus haut au ciel le plus rapproché, est révélé. Et puis ensuite, pendant les 23 années de la mission prophétique, eh bien, le Coran va être révélé au gré des circonstances et au gré des questions qui sont posées, soit par les musulmanes et les musulmans, soit d'ailleurs par ceux qui ne le sont pas et qui interpellent le prophète, soit d'ailleurs par les circonstances historiques, la réalité de la vie que menait la communauté et que dirigeait le prophète. Quand on en vient au Coran, ce qu'il faut comprendre, c'est en l'occurrence, sa fonction, l'essence même de ce message est la direction à laquelle il nous invite, non seulement à réfléchir, non seulement à nous purifier, mais également à agir à la lumière de sa révélation, à la lumière de son sens et à la lumière de ce qui va venir au prophète comme la parole ultime de l'unique, de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Et c'est le début d'ailleurs, de ce que doit être notre foi. Parmi les piliers de notre foi, il y a le fait, effectivement, un de ces piliers de cette foi, c'est de considérer le livre, le dernier des livres, de même que le dernier des messagers. Quand on dit dans la shahada, par exemple, « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah », quand on dit que l'on n'atteste que l'islam, que Dieu est unique et que le messager, le dernier des messagers, ce qu'on dit en même temps, implicitement, c'est que ce Dieu unique et ce messager qui est le dernier viennent avec une révélation et qui va accomplir l'ensemble de tout ce qui a été dit auparavant, tout ce qui a été révélé auparavant. « Eliyahum akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, dit le Coran, et nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire, voilà, le cycle de la prophétie est terminé, ce livre est le dernier. Et parmi les piliers de cette foi, parmi l'essence même et fondamentalement constituant l'essence de la religion, eh bien, il y a le fait que ce Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, le prophète salam, reçoit la révélation, le wahy, et quand il reçoit la révélation, il répète ce qu'il reçoit et il le répète en l'état. Donc, un des éléments de notre foi, de ce qui va constituer l'aqida, c'est-à-dire le fondement de notre credo, de notre relation à Dieu, de ce lien qui nous lie à Dieu, est bien le fait de cette croyance en ce que le Coran est la parole dernière et la parole en l'état. Ces deux éléments. Pourquoi est-ce qu'il faut rappeler ceci? Parce qu'on entend aujourd'hui, dans les dialogues interreligieux ou parmi des gens qui, de l'intérieur de l'islam, remettent en cause cet élément-là en disant c'est un livre comme les autres et qu'il faut étudier comme les autres. Il y a des éléments du livre que nous devons étudier, comme les autres livres, en l'occurrence simplement le fait de son historicité. Et ça, les savants l'ont fait dès le départ. Quand ils pensent par exemple à Asbab ibn Nuzul, c'est-à-dire les causes de la révélation, eh bien ils comprennent un verset dans une circonstance particulière parce qu'on ne peut pas comprendre le verset sans comprendre le contexte qu'il le reçoit. Ce travail dans l'histoire est une nécessité de la lecture du Coran au sens où l'on en extrait les règles et on en comprend le fondement. Donc ces dimensions-là, oui, bien sûr, on va gérer notre analyse, comprendre et révéler les fondements de ce qui vont être les règles de l'islam dans l'histoire de la prophétie. Mais le texte, mais la nature, mais le mode de transcription, le mode de reconnaissance du sens, il est lié ici, effectivement et fondamentalement, à la parole ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Et donc ça, c'est un premier fondement qu'il faut dire et répéter et qui distingue, en l'occurrence, la dernière des révélations qui les ont précédées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, c'est-à-dire nous avons descendu le rappel et nous en sommes les protecteurs. Et nous, ce que nous croyons fondamentalement, c'est que ce Coran est la dernière des révélations et elle est protégée. Et elle est protégée par différentes réalités, la réalité spirituelle, la réalité de Dieu qui protège ce texte et son sens, et surtout également, et on le voit partout à travers le monde, le fait de ces hufaz, de tous ces femmes et tous ces hommes qui connaissent le Coran par cœur, qui le portent et qui le protègent, qui en protègent l'élocution, qui en protègent la grammaire, qui en protègent le sens et qui en protègent la récitation. Un texte protégé en soi pour nous et pour l'éternité. Ça, c'est un premier élément de notre rapport au Coran et il faut le placer comme un fondement parce que autant il y a des dimensions spirituelles et morales qui vont être liées à notre relation au Coran, autant il faut d'abord que ce soit pour nous clair qu'il y a des principes sur lesquels nous nous concentrons, que nous reconnaissons et qui vont fonder notre religion. Après ceci, ce qui est dit, c'est que le prophète, quand il reçoit au début le Coran, quand à l'âge de 40 ans commence la révélation, et on le connaît, on sait comment les choses se sont passées, il est aussi très très important dans le Coran de connaître sa chronologie. Le premier verset, les premiers versets révélés sont ceux de la sourate 96. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit et rappelle au prophète la nécessité de lire et de venir à lui par la lecture. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. On connaît la suite. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé et l'homme et donc en l'occurrence qui va mettre en évidence la dimension de cette création et la dimension de cette révélation. Il crée l'homme et il lui révèle le sens. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans une autre sourate du Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et commence par « En fait, il crée l'homme et lui donne la direction », ce qui veut dire en l'occurrence « Il crée l'homme dans son essence et lui donne sa direction dans sa miséricorde, dans sa bonté. » Et c'est pour ça qu'on a dans l'autre sourate du Coran « بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Et il met la relation immédiate entre Ar-Rahman wal-insan, ce qui va être notre lien, ce qui va nous donner la direction, c'est Al-Qur'an. En l'occurrence, Al-Qur'an, fondamentalement, il est la dernière parole du divin pour l'humain. Et il est l'expression de sa miséricorde fondamentale, de son ultime présence dans la bonté, dans le fondement de sa relation avec l'homme. Donc le Coran est un signe de sa miséricorde, de sa bonté dans la direction qu'il nous donne et qu'il ne nous les ait pas laissés être perdus par les affaires de ce monde. Donc, une dernière révélation suivant un prophète dans la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit au prophète, ce qui va attirer d'ailleurs, qui va résonner dans la conscience de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas descendu ce Coran pour que tu sois perdu, pour que tu sois misérable, pour que tu sois mal dans ton être. Mais c'est un souvenir, mais c'est un rappel pour celui qui va être porté par l'amour révérentiel de Dieu. Eh bien, c'est ceci qui est important, c'est que le deuxième nom du Coran, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons fait descendre le rappel. Et donc le Coran, il est, et c'est sa troisième fonction ici qu'on rappelle, il est ce message qui vient à nous pour nous donner la direction, mais pas pour nous donner la direction que nous ne connaissions pas. Il vient nous donner la direction qui était enfouie en nous et que nous avons oubliée. Il est le rappel de l'enfoui. Il est le rappel de l'intimité. Il est ce qui vient de l'extérieur dire la lumière intérieure. Ce qu'on trouve dans un autre verset du Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Nourun ala nour » la lumière du divin par la révélation qui vient trouver la lumière de l'humain par ce qui était chez nous la traction, la recherche, la quête naturelle, el fitra, fitrat Allah, allati fatara an-nas 'alayha, ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire cette aspiration. Donc le Coran, en même temps, il est ce rappel de ce qui nous habite. Il est le texte qui vient dire le sens et un sens qui a une lumière, parce qu'il faut avoir de la lumière pour suivre le sens, mais déjà la lumière nous habite. Il est la lumière qui retrouve notre lumière. Et en d'autres termes, le Coran, il nous dit, lis, mais lis en toi Élie le monde pour aller vers lui. Ce texte-là, il est un texte qui est d'abord aussi un texte intérieur. C'est d'ailleurs la lecture de soi. C'est pour ceci qu'on en arrive ensuite à comprendre ce que le Coran doit être en termes de principe, ce que nous avons dit, en termes de lumière, ce que nous avons rappelé, en termes de direction et ensuite en termes de rapport à Dieu. Et c'est ceci qui va être la première relation. Dans l'égalité absolue de toutes les croyantes et de tous les croyants, ce que nous dit le Coran, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Ce livre est accessible à tout le monde. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est accessible à tout le monde de la même façon? Non. Mais ce dont on vient de parler est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que le Coran, parce qu'il nous réconcilie avec nous-mêmes, va devenir un miroir. Et tous les savants, dans toute la tradition de l'islam, eh bien, tout ce qui a été la réalité, c'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays majoritairement musulman, n'importe quel musulman qui vit n'importe où dans le monde, quand le Coran est récité, eh bien, quelque chose parle, quelque chose va réveiller une flamme intérieure, va réveiller une lumière intérieure, va réveiller l'étincelle. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle ce qui va être pour nous expérimenté pendant le mois du Ramadan, mais toute l'année, parce que le mois du Ramadan, ça doit être le mois où on fait plus ce qu'on fait normalement, un peu moins. Et donc, ça va être la lecture. Al-qira'atu ta'abbudiyya, c'est-à-dire la lecture d'adoration. Et la lecture d'adoration, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Elle veut dire que nous revenons à ce que Dieu a révélé et que nous nous mettons dans une disposition de cœur à recevoir ce qu'il nous dit, mais en fait, à recevoir la façon dont Dieu va nous parler de nous. En fait, ce Coran, c'est un miroir et c'est un élément de la communication avec Dieu. Tout ce que le Coran va nous dire, tout ce que Dieu va nous dire dans le Coran que nous allons lire, nous habite déjà. Alors ça nous habite d'abord par notre foi en Dieu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Ayyuhal ladhina amanu » « Oh vous qui portez la foi », il parle à moi, il parle à nous, il parle à chacun d'entre nous. Donc il parle à ceux qui déjà m'habitent et il nous dit par exemple, Estajibulillah, répondez. Donc il nous appelle à répondre. Et à répondre comment? Par notre présence, par notre façon d'être à l'écoute, d'être, comme il est dit, quand le Coran est lu, quand le Coran est lu, ben, il faut écouter, il faut prêter attention. Mais ça veut dire quoi prêter attention? Ça ne veut pas dire lire un livre comme on lit n'importe quel livre. Prêter attention, c'est ouvrir son cœur et se mettre dans une disposition de communication et de réflexion intérieure. Le Coran, la lecture d'adoration, c'est d'abord une disposition du cœur. C'est d'abord une disposition de soi par rapport au divin. Raison pour laquelle on comprend ici que ce qui a été dit dans la tradition et qui est majoritairement la tradition qui est reconnue, c'est effectivement le fait de faire ses ablutions, de se mettre dans une... Pourquoi est-ce que c'est important de faire les ablutions quand on le peut et que... Parce que ça nous met dans une disposition spirituelle. Alors après, il y a l'apprentissage, il y a des fois où il y a des savants, en l'occurrence, qui, par rapport à cette disposition de la purification dans des situations de nécessité, mettent en évidence que... On n'a pas tout le temps la possibilité de le faire, mais dans la lecture d'adoration, tout ce qu'il faut faire avant de prier, il faut essayer de le faire avant de se lire et de lire ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous dire. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut véritablement, sur lequel il faut insister. Et quand, pendant le mois du Ramadan, il nous est dit, et ce qu'a dit le verset que j'ai rappelé, que c'est le mois dans lequel a été révélé le Coran, et qui est le mois, Shahrul Ramadan ou Shahrul Qur'an, le mois dans lequel on va lire le Coran, ça veut dire que cet état spirituel dans lequel nous sommes, qui est de ne pas boire, de ne pas manger, d'éviter ce que naturellement nous faisons, pour en revenir à une attitude spirituelle, qui est une attitude de spiritualité. De notre présence au texte, eh bien, cette attitude-là, elle va nous demander de nous engager à essayer de trouver en nous et dans le Coran les éléments qui vont nous rappeler le sens. Parce que ce qui est dit au prophète, c'est pour que tu te rappelles. Et qu'est-ce que ça veut dire, se rappeler? Se rappeler, c'est comment venir à Dieu à partir de qui je suis. Et qui je suis, c'est un état du cœur. Qui je suis, c'est un état de l'esprit. Qui je suis, c'est aussi l'état de mes blessures. Il ne faut pas venir au Coran comme si on était pur. Il faut venir au Coran comme on est, avec toutes les blessures de son cœur, toutes les questions de sa conscience, tous les problèmes de sa vie, et il faut écouter ce que le texte a à nous dire là où nous sommes, comme nous sommes, pour essayer de devenir meilleur que ce que nous sommes. C'est-à-dire un état d'humilité, un état de reconnaissance, un état de transparence. Une lecture du Coran qui appelle à ma transparence pour essayer non pas de faire comme si j'étais pur, mais de faire comme si je devais comprendre que de là où je suis, j'ai encore à faire pour être plus proche de celui qui m'attend et de celui en qui et vers qui j'ai envie de me rapprocher, l'unique, le Très-Haut. Nous reviendrons après la pause sur cette question de ces lectures et essayer de comprendre quel type de relation nous avons, Inch'Allah, à développer avec ce Coran pendant ce mois et tous les jours de notre vie, Inch'Allah. A tout de suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir que je vous retrouve après cette pause. Nous avions parlé juste auparavant de cette lecture, Al-Qira'at Ta'abudiyya, comment chacun d'entre nous, femme, homme, enfant, toute personne qui vit cette vie et qui vit cette vie dans la distraction que la vie est en elle-même. C'est-à-dire que cette vie, elle est zuyyina linnas, la vie, elle a été embellie. Et à un moment donné, il faut se retirer. Le Coran est ce moment où l'on se retire, où l'on entre dans une communication avec soi-même et avec le Très-Haut, dans une lecture où nous revenons à nous-mêmes, avec la simplicité, avec l'humilité. C'est le seul moment, au fond, où l'on peut tout montrer de l'intérieur à celui qui nous parle et qui voit tout de l'intérieur et qui nous dirige vers le meilleur, vers la meilleure des attitudes. C'est un moment qui doit être un moment de réconciliation avec soi-même. Donc le Coran, c'est d'abord ceci. Le Coran, il va venir, quand il est dit dans le Coran, et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. C'est la connaissance de Dieu se place entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire qu'il faut mettre le Coran entre soi et soi. C'est-à-dire qu'il faut que ce Coran devienne un livre qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous permette de mieux nous comprendre. Alors comment les choses se passent? Comment est-ce que ceci va se passer dans notre vie? Est-ce qu'il s'agit simplement de prendre le Coran et de se mettre dans une disposition? D'abord, il s'agit déjà d'être disposé, de s'ouvrir, tout ce que nous avons dit auparavant. Puis ensuite, on en vient à ce que Allah SWT a dit du Coran. Comment est-ce qu'il appelle le Coran? Comment est-ce qu'il nous dit être la substance du Coran? Le Coran, c'est la lecture. C'est la récitation. C'est ce que l'on lit. Et en même temps, on a vu tout à l'heure, c'est Ezzikr. C'est ce qui nous rappelle. C'est ce qui nous rappelle à nous-mêmes. Et puis, Allah, il parle du Coran et dit « En-Nur », la lumière, c'est-à-dire ce qui nous permet de voir. Le rappel, la réconciliation, « En-Nur », la vision. La vision de soi, parce que parfois il y a des ténèbres en nous, donc ça nous permet de voir à l'intérieur, mais la vision extérieure. Et puis, il utilise d'ailleurs « El-Furqan », c'est-à-dire « Hudan linnas », il est dit dans le Coran, c'est une direction. « Wabiyyinatin min al-huda wal furqan ». El-Furqan, c'est le discernement, c'est la vision intérieure, c'est quand on voit au-delà des éléments, des signes. Alors, ce moment-là, il nous dit, ça c'est le Coran. Et en fait, le Coran, il est aussi el-huda, c'est-à-dire la direction, ce qui va nous permettre de suivre. Donc, la lumière pour voir, la direction pour aller, le discernement pour voir encore plus profondément, et tout ceci dans un mode qui est la lecture de réconciliation avec nous-mêmes. Donc, Allah SWT, là, il nous envoie un texte qui est lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lumière, ça veut dire ouvrez, regardez la réalité de la vie. Et la première des choses, ce qu'il a fait avec le prophète, parce que c'est ça qu'il faut suivre. Il faut suivre comment le prophète a été éduqué par Allah SWT dans les 23 années de la révélation. Il lui dit, le texte, et il lui dit, le texte te parle de la nature. Le texte te dit que le soleil n'est pas que le soleil. Le texte te dit que la lune n'est pas que la lune. Le texte te dit que la nature n'est pas que la nature. Le texte te dit que tout ce qui est autour de toi, ça n'est pas uniquement ce que tu vois, c'est le sens de qui il est. Il est dans tout ce que tu vois. Et si tu voyais avec les yeux du cœur, tu te rendrais compte que ce qui est autour de toi chante les louanges de l'unique. Qui te dit ça? Qui te dit regarde? Eh bien, le Coran. Le Coran est un acte de conversion perpétuelle. Et pourquoi est-ce qu'il faut lire et relire le Coran? En fait, pourquoi faut-il prier et prier? Pourquoi il faut que le Coran soit dhikr? Parce que nous sommes de nature à oublier, parce que au bout d'un temps, nous lisons le monde sans comprendre le sens. Et le Coran vient nous dire, et le monde a un sens. Et c'est le Coran qui rappelle ce sens. Et il est cette lumière-là. Donc il rappelle systématiquement dans notre vie les éléments qui vont être cette lumière. Cette lumière de ce cœur qui peut s'éteindre, de ces yeux qui ne voient que superficiellement. Et donc le Coran va être le rappel de cette lumière, ça veut dire le rappel de ce sens. Et puis ce qu'on va trouver également dans le Coran, et qui va être également important pour nous tous, c'est aussi l'expression d'un certain nombre de règles. Il y a des passages dans le Coran qui sont stricts. Et ça aussi, c'est important. Pour que l'on se souvienne, pour que l'on se rappelle, il y a des éléments qui vont être stricts quant aux règles. C'est strict quant à la prière, c'est strict quant au jeûne, c'est strict par exemple par rapport aux prohibitions, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas à faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un texte, il dit « Oui, la lumière vous dit que tout d'abord vous est permis, mais la lumière vous dit il y a des interdits à connaître et des règles à respecter. » Donc le Coran, c'est un texte qui, dans le rappel, va être pendant le mois du Ramadan. Et au moment où on est en train de le lire, là, on suit des règles. C'est-à-dire, avant le Maghrib, ce n'est pas encore le Maghrib. Il faut attendre le Maghrib pour pouvoir commencer à manger. Il faut être strict avec un certain nombre de règles. Ça, c'est l'élément essentiel de toutes les spiritualités du monde. La discipline spirituelle, c'est la seule vraie liberté. La liberté sans discipline, c'est une illusion. La discipline avec la liberté, c'est uniquement par la discipline quant à soi qu'on libère en soi ce que sont les forces les plus positives. Parce qu'on peut être libre à la surface de son être et on libère ce qui est parfois le plus négatif. Libérer une émotion négative, c'est pas être libre, c'est l'émotion qui a gagné puisque c'est le négatif qui nous emporte. Mais faire sortir de soi le positif suppose la maîtrise du négatif. Pas de liberté dans le bien sans maîtrise du mal en nous. Et c'est le Coran qui nous dit ça tout le temps. Tout le temps, tout ce qui est dans le Coran, c'est de dire voilà les règles et donc il faut les connaître. Donc la communication, le Coran nous dit de revenir à nous-mêmes et il nous dit mais si tu te connais, tu comprendras que tu as besoin de règles pour te discipliner. Le premier être à discipliner, c'est ton propre ego. C'est ton propre cœur, c'est ton propre être intérieur. Et le Coran, au fil des pages, rappelle. Et ce qui est tout à fait surprenant, et en même temps c'est le secret de la révélation, c'est que ces règles reviennent en cycle, comme nous sommes. Nous sommes des êtres cycliques. Nous sommes élevés en spiritualité et parfois bas en spiritualité. Et ça revient et ça repart. Et le Coran revient et repart, comme pour nous dire, voilà la voie. Voilà la voie qu'il faut suivre, voilà la voie qu'il faut déterminer comme celle qui va nous permettre, par rapport à ces règles, de comprendre comment se discipliner, au sens noble du terme. Le terme discipline aujourd'hui est un terme qu'on n'aime pas, ni dans les, malheureusement, pas suffisamment dans l'enseignement, pas suffisamment dans la vie, comme si la discipline était l'opposé de la liberté. Et ça, le Coran nous dit exactement le contraire. Mais ce n'est pas tout. En même temps que le Coran nous parle de ces règles, il va nous parler de façon cyclique également, de tout l'enseignement moral. C'est-à-dire que l'essentiel de ce Coran, c'est effectivement de venir nous dire la moralité, c'est-à-dire comment on agit pour le bien, qu'est-ce que c'est que d'être un homme de bien, une femme de bien. Et donc, la majorité de ce Coran est constituée par la règle, par l'enseignement moral, le fait que quand on l'a dit, Aïcha radiallahu anha est questionnée sur le prophète sallam, elle dit qu'un akhulqul Qur'an, son caractère, son comportement, c'était le Coran, comme pour nous dire, lisez le Coran. Lisez le Coran et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver tous les enseignements que vous devez essayer d'appliquer de patience, de bonté, de générosité. Et comment cet enseignement moral nous est livré? Uniquement comme un code de la route, voilà la moralité que vous devez suivre? Non, c'est encore plus profond que cela. De la même façon que les règles reviennent de façon cyclique, eh bien le Coran nous fait venir les histoires du Coran. Les histoires du Coran, elles sont extrêmement importantes parce qu'on connaît les... Il y a à travers des pages du Coran, des éléments de la moralité, de ce qui est, comment bien agir, de bien se comporter. Mais les histoires des prophètes, que vous avez dans le Coran, qu'est-ce qu'elles viennent faire quand vous lisez l'histoire de Adam et de son épouse Hawa, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, quand vous lisez l'histoire de Noah, de tous ces prophètes, et puis de Moussa, Moïse, et puis de Jésus, Isa, et du dernier des envoyés qui est présent dans le texte. Eh bien, toutes ces histoires, quand vous lisez Youssouf, qu'est-ce qu'elles font toutes ces histoires? Elles vous donnent des enseignements de la vie, elles vous renvoient le miroir de leur vie, et quand vous les lisez, elles sont un miroir. Chacun dans l'histoire va trouver une part de lui-même. Et à son niveau, on lit l'histoire au niveau de son intelligence. Et donc, en l'occurrence, on extrait de ces histoires des enseignements qui vont nous édifier. Regardez comment de cet unique qui est unique pour tous, l'histoire est le miroir de chacun. Chacun trouvera dans le miroir ce qu'il va y mettre, ses blessures, ses recherches, ses quêtes. Et en plus, jamais deux fois nous ne lisons la même histoire de la même façon, parce que jamais deux fois nous sommes le même. Nous lisons parfois avec une blessure, parfois avec un espoir. Les histoires nous prennent là où nous sommes, chacun d'entre nous. Et quand on lit le Coran, il faut s'ouvrir à cette réconciliation. Et les histoires sont nos miroirs. Les histoires sont et nous permettent de vivre ceci. Que chacun d'entre nous le fasse, raison pour laquelle le Coran est le texte pour tous, parlant à chacun, chaque jour de sa vie, différemment, car chaque jour de sa vie, nous sommes différents. Qu'on essaye et qu'on le fasse et qu'on tire profit de ce mois du Ramadan qui nous appelle à cela, un mois de réconciliation et de profondeur, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une prochaine émission, Biznillahi Ta'ala, et vous pouvez vous-même nous retrouver sur le site de l'émission, que ce soit donc sur la chaîne Iqra ou que ce soit sur le site. À bientôt, biiznillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do.